Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Julia, par quoi va-t-on commencer ?
Eh bien Mélanie, je sais que ça va vous plaire car je sais aussi que vous travaillez déjà sur votre menu de réveillon.
Oui.
Alors si je vous dis foie gras et champagne, eh bien il y en aura ou pas sur votre table de Noël ?
Probablement.
Ça ne m'étonne pas, je m'en doutais. Comme sur de nombreuses tables de Français chaque année. Alors néanmoins, on va se poser cette question. Comment bien les choisir, ces produits de fête ? Quels sont les critères importants qu'il faut vérifier ? Est-ce que le coût du produit est un gage de qualité ? Vous verrez qu'il y a quelques surprises. Ce sera un dossier en partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs.
Et puis Julia, à 11h35, dans notre dossier santé du jour, on a décidé de vous parler de génétique, mais aussi de nos muscles sous un angle étonnant. Savez-vous que si vous n'arrivez pas à faire un tube avec votre langue, c'est à cause de vos gènes. Bref, on vous expliquera tout ça et bien d'autres choses avec Serge Braun. Il est directeur scientifique de l'AFM Téléthon et il nous expliquera aussi pourquoi comprendre les maladies génétiques rares bénéficie en réalité à tous.
Ensuite, Mélanie, à midi, dans la partie tendance de l'émission, il y aura d'abord la chronique gastronomie de Margot Grossman. Aujourd'hui, elle nous propose de mettre à l'honneur un citron un peu particulier, le citron caviar. Et elle nous apprendra justement comment bien l'utiliser en cuisine. Ensuite, Nathalie Le Breton, notre spécialiste pour les tendances livres jeunesse, sera elle aussi en studio avec nous. Ce mercredi, elle a choisi une sélection de bouquins particulièrement judicieux quand il y a des rivalités entre frères et sœurs à la maison.
Et puis Julia, nous terminerons cette séquence finalement un peu comme on va la démarrer, l'émission, avec un autre produit de fête, le caviar. Philippine Darblay va nous présenter les dernières tendances concernant ce produit d'exception et sa fabrication. Il y a comme une petite ambiance de réveillon ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre dans lequel tous les jours on regarde à la loupe notre vie quotidienne et par exemple ce que nous consommons. C'est ce qui nous intéresse ce matin, les fêtes de fin d'année approchent et on peut se poser cette question, champagne et foie gras, savons-nous vraiment bien les choisir ?
Mais oui, c'est vrai qu'on peut tous avoir un avis sur la question, mais pour en savoir plus dans le détail sur ces produits d'exception, ces produits de fête, eh bien le magazine 60 millions de consommateurs, notre partenaire sur ce dossier, a mené l'enquête et on vous donnera les résultats précis pour vous aider à faire vos courses dans un instant. Mais avant cela, on va se tourner vers notre starter tous les jours. Il a peut-être lui-même ses astuces pour choisir
peut-être
très bien tous ses produits. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour
Clément.
Merci de m'accueillir parce qu'il y a des sujets que je préfère à d'autres.
Celui-là, vous l'aimez bien,
mais
j'en suis sûr.
Quand on me parle de la sexualité chez les seniors ou d'accouchement, je vous avoue que je suis moins concerné que par le foie gras.
C'est vrai que tendre le
micro
pour demander aux gens leur avis sur le foie gras et le champagne, c'est plus simple que sur l'infidélité, par exemple.
C'est un beau métier, voilà. Ça se termine souvent par « et allons goûter ». On l'espère, donc j'ai fait un petit tour de France avec ce micro, je me suis renseigné, et si j'étais un bon journaliste, que je ne suis pas, je me serais tourné évidemment vers des viticulteurs, vers des maisons de champagne.
Vous n'avez pas fait ça.
Non, j'ai carrément demandé aux enfants, à votre avis, est-ce qu'il y a une occasion spéciale ou est-ce que les grands, ils boivent du champagne tout le temps ?
On peut boire du champagne à Noël, au Nouvel An,
pour mon anniversaire, pour la fête des pères, pour la fête des mères, pour Noël, pour plein de fêtes.
Parfois, mon papy il me donne un petit fond pour Noël, c'est parce que mes parents ils sont d'accord, parce que c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, ça balance, on l'a tous fait, c'est pas bien.
Le fameux papy qui donne le petit fond de verre.
Et on rappelle que c'est à consommer avec
modération.
Et avec qui vous voulez, mais avec modération. Alors justement, comment bien choisir son champagne ? Là, je me suis quand même tourné vers les adultes et je leur ai posé la question, vous faites comment vous pour le choisir ?
Ah moi, le champagne, je le goûte, s'il est bon, je le prends.
Je fais confiance aux artisans locaux. Bon, c'est pas trop compliqué, habitant l'Île-de-France, je me rends en Champagne du côté de Reims pour le champagne.
Personnellement, je conseille une bulle bien fine et un goût bien minéral.
Moi, dans mon cas, je vais au salon de la gastronomie, je vais directement chez les producteurs, je goûte leurs produits et à partir de là, je peux choisir ce qui me convient le mieux.
C'est marrant de voir qu'il y a deux écoles. Hein. Il y a toujours ceux, vous savez, qui font tourner le verre comme avec le vin. On se dit,
moi, je le fais, même si j'y connais rien, voilà, je fais tourner le verre.
On fait tous un peu semblant. On est juste un peu triste au moment où au moment où on demande de recracher, souvent on se dit, ah non, je peux pas garder, j'aime bien finalement. Et le foie gras, ça se passe comment ? Même question, comment on choisit le foie gras pour ceux qui en mangent ?
Pour le foie gras, j'ai de la famille qui habite du côté du sud-ouest. Ça nous donne l'occasion de nous voir et puis de déguster de superbes foie gras ensemble.
Je le choisis toujours gras, d'où son nom, Et personnellement, je suis plutôt team oie que team canard.
À chaque fois, je reste sur des marques connues. C'est peut-être pas top comme solution, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour essayer d'avoir quelque chose de potable à des prix corrects.
À des prix corrects, parce qu'effectivement, il y a aussi cette dame qui a une technique bien à elle.
En fait, c'est facile pour bien choisir, même quand tu connais rien. Et bah, tu prends le plus cher. Comme ça, t'es sûr d'avoir un truc bon, quoi.
Alors, on répondra à ça tout à l'heure. Est-ce que c'est la solution ? Je voudrais quand même vous quitter avec cet enfant qui va, à travers ses mots, rassembler ce que pensent peut-être tous les enfants autour d'un repas de Noël. Attention, ça balance du côté des enfants.
À Noël, les adultes, ils ont toujours du foie gras. Et nous, de la mousse de foie. Mon père, il dit toujours, les enfants, ils ne voyeront pas la différence. Mais je sais très bien que son pâté est meilleur que le nôtre.
Oh, eh oui, les enfants ne sont pas dupes. Votre pâté est meilleur que le nôtre.
Oh, moi, j'achète du vieux pâté pour les enfants, c'est vrai aussi.
Mais comme tous les parents.
Eh, mais il y a un âge où certains enfants commencent à s'en apercevoir.
Oh, ils sont gentils, ils ne nous le disent pas en tout cas. Il n'y a qu'à vous qui disent tout ça, Clément.
Oui,
merci pour ce reportage gastronomique. Vous restez avec nous, car on va entrer à présent dans le vif du sujet. Champagne et foie gras, comment bien les choisir ? Un dossier du jour en partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs. Et donc, pour en parler, deux invités avec nous en studio. D'abord, la rédactrice en chef du magazine, Sylvie Metzlar. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec nous également Antoine Henkins. Bonjour à vous.
Henkins.
Bonjour.
Henkins ou Henkins ?
Henkins.
Oh, allez. Désolé Antoine. Merci d'être là. Alors, vous êtes ingénieur agroalimentaire à l'INC, qui est l'Institut National de la Consommation. Le champagne et le foie gras, ce sont évidemment des produits phares de nos tables pendant les fêtes, mais à quel point les volumes de vente augmentent à cette période de l'année ? Est-ce qu'on a une idée ?
Sylvie, peut-être ? Ouais. Alors oui, on a une idée assez précise pour le foie gras, parce qu'on sait que la consommation de foie gras, le chiffre d'affaires total correspond pour 70% aux ventes de Noël. Entre 70 et 80%. Donc ça laisse assez peu de place pour le reste. Alors on sait aussi en moyenne qu'on en mange deux fois par an pour à peu près 330 grammes par personne.
Deux fois par an, c'est-à-dire ?
À Noël et une autre fête, comme on a entendu tout à l'heure dans le reportage, ça fait l'anniversaire, à Pâques, etc. Mais c'est surtout les fêtes de Noël.
Le stock de pâté aussi pour les enfants. Oui, c'est parallèle que les courbes. Est-ce que les Français ont changé leur mode de consommation peut-être depuis quelques années concernant ces deux produits-là ? Est-ce que, je ne sais pas, une mise, on a eu l'impression de l'entendre, en tout cas quand on écoutait le micro-trottoir de Clément Lanoux, ils misent plus sur la qualité ou pas ?
Oui, alors de plus en plus, les baisses de foie gras, ça a un peu baissé en volume, mais pas en valeur. C'est-à-dire qu'on achète moins, mais mieux. Et on regarde beaucoup plus les étiquettes et aussi les provenances.
Alors justement, on achète plus local maintenant ou pas ?
Alors, local, on va dire plus France. Mm-hmm. C'est le cas du canard, naturellement. Et c'est vrai que sur le sud-ouest, c'est 70% des ventes de canard français.
Et dans tout ce que vous avez testé, c'est uniquement en France, hein ?
Alors oui, on s'est vraiment limité à la France. Alors déjà parce qu'on a fait on a testé des produits qui étaient soit des foie gras entiers, des blocs avec ou sans morceaux, donc c'était pas de l'entrée de gamme. Et les canards importés, enfin les foie gras de canard importés sont souvent sur de l'entrée de gamme.
D'accord.
Donc 24 produits sélectionnés dans votre banc d'essai. Quels ont été les critères justement pour sélectionner les produits de votre test ? C'est des produits qu'on retrouve, je sais pas, dans la grande distribution, Antoine par exemple ?
Oui, alors en fait, on se base évidemment sur des études de marché. Hein. L'objectif, c'est que c'est des produits qui soient représentatifs de la consommation des Français.
Bien sûr.
Donc ces produits-là, on va les trouver pour la plupart en grande surface, et puis on peut en trouver aussi directement chez le producteur. Enfin, on va dire ceux qui sont accessibles via le site en ligne, par exemple.
Alors Sylvie ou Antoine, on va pas spoiler l'émission, comme on dit, mais déjà Clément et son micro trottoir, il y avait une dame qui disait « moi je prends le plus cher ». Alors est-ce que c'est ça la bonne solution ? Est-ce que pour avoir une belle table et bien manger, il faut forcément casser sa tirelire ?
Non, évidemment non. Évidemment non, là ça on le verra, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans le détail.
Ensuite.
Et ben, les produits les plus chers arrivent plutôt en queue de peloton chez nous. Pas tous, hein, pas systématiquement, mais voilà. Donc non, c'est pas un indicateur, surtout quand on achète en grande surface.
D'accord, et ça c'est valable pour le foie gras et pour le champagne.
Et le champagne.
Pour les deux.
Très bien. Bah, écoutez, vous restez avec nous tous les deux. On va poursuivre cet entretien dans un court instant. Et on va apprendre peut-être à mieux faire les courses cette année pour le réveillon. Comment choisir un bon champagne sans forcément se ruiner ? Champagne millésimé, blanc de blanc, blanc de noir. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Et puis on parlera aussi foie gras, évidemment. Y a-t-il des critères visuels, des choses à scruter sur les étiquettes des produits qu'on trouve en supermarché, par exemple ? On va tout revoir ensemble ce matin sur Europe 1.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on s'intéresse à deux produits d'exception, des grands classiques des tables de fin d'année. Le champagne et le foie gras, savez-vous bien les choisir? Si ce n'est pas le cas, tant mieux, hein, puisqu'on reprend tout avec nos deux invités. Sylvie Metzeler, rédactrice en chef du magazine 60 millions de consommateurs. Et puis Antoine Anquin, ingénieur agroalimentaire à l'INC, l'Institut National de la Consommation. Alors, on va commencer par le champagne, hein, un breuvage apprécié pendant les fêtes. Première question, Antoine, qu'est-ce qui fait un bon champagne, selon vous?
Alors, c'est une très bonne question et à laquelle il n'y a pas forcément de réponse très tranchée, hein. Le bon champagne, il va dépendre beaucoup de vos goûts. Effectivement, pour savoir ce qu'est un bon champagne, il faut en goûter un certain nombre.
Ah, c'est une bonne réponse, hein, en tout cas. Alors, comment vous avez fait le panel, Sylvie, dans le magazine? Vous avez distingué les trois champagnes en trois catégories, les millésimés, les non-millésimés et les assemblages. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence? Ou alors Antoine, qui veut?
Oui, alors on a testé donc des champagnes bruts classiques. Donc effectivement, hein, le champagne brut, c'est l'immense majorité des champagnes vendus. Mm-hmm. On a aussi testé des champagnes millésimés. Alors millésimés, qu'est-ce que ça veut dire? Un champagne millésimé, c'est un champagne qui correspond à la récolte d'une seule année. Donc c'est comme le vin classique, où le vin classique, vous avez toujours l'année qui est écrite, ou quasiment toujours l'année écrite sur la bouteille. Oui. Dans le champagne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'année, indiquer l'année, c'est l'exception. C'est-à-dire que cette année-là, vous allez avoir un champagne 2012, 2013, 2014, etc.
Et quand il n'y a pas l'année, oui, ça veut dire qu'il y a plusieurs années mélangées, années de raisins et de récoltes dans le vin. Quoi,
exactement. En fait, les champenois, ils ont quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que dans le vin, en général en France, vous allez essayer de faire ressortir une année par un caractère particulier. Vous dites, ah, 2018, c'est une très belle année, 2017, etc. Alors que dans le champagne, vous allez essayer de faire le même produit tous les ans. Enfin, en tout cas, qui se ressemble au maximum tous les ans. Donc en fait, pour ça, vous allez mélanger hein, des vins qu'on appelle des vins de réserve que vous avez stockés d'années précédentes, etc. Et le but, c'est que tous les ans, vous ayez le même goût. Donc le cas des champagnes millésimés, finalement, c'est un peu l'exception, mais ça existe bien. Et
puis ça permet d'avoir du vin, les années où la récolte n'est pas très bonne aussi. Exactement. D'avoir des assemblages et des vins de réserve, comme vous dites. Qui c'est qui a jugé alors à l'aveugle, justement, tous ces champagnes? Comment s'est fait ce test dans ce magazine?
Alors, en fait, nous, on fait venir des experts, hein, c'est tous des professionnels du vin. Qu'il s'agisse de sommeliers, qu'il s'agisse de formateurs en œnologie, qu'il s'agisse de consultants, etc. Nous, en fait, on leur donne, c'est un protocole qu'on va dire d'analyse sensorielle, hein, on leur sert le verre à l'aveugle, ils ne savent pas ce qu'ils dégustent, et puis on change l'ordre selon les personnes, c'est-à-dire que tous ne dégustent pas le même verre en même temps, hein, pour éviter tout ce qui peut être ce qu'on appelle un effet d'ordre ou le fait de copier sur le voisin.
La triche, quoi.
Et voilà, exactement. Et puis, en plus, on commence notre séance par ce qu'on appelle un calage, c'est-à-dire qu'ils goûtent tous le même vin. Mm-hmm. Alors, ils ne savent pas ce que c'est, évidemment. Et pour qu'ils s'étalonnent par rapport à la notation.
D'accord. Et sur les bouteilles, parfois, on voit marqué blanc de blanc ou blanc de noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir?
Voilà, alors c'est des champagnes qui commencent à arriver, notamment dans la grande distribution, qui n'étaient pas très présents ces dernières années, qui commencent à arriver. Alors en fait, c'est assez simple, c'est une histoire de cépage. Hein. Le cépage, c'est la variété de raisin. Donc en fait, les blancs de blanc, ils sont issus exclusivement de cépages blancs. Donc en champagne, ça va être très majoritairement le chardonnay. Alors que le blanc de noir, il est issu de cépages qu'on appelle donc dit noir. Hein. En l'occurrence, la majorité, c'est pinot noir, pinot meunier. Ce sont des cépages noirs qui sont à chair blanche. Donc si vous les pressez sans les laisser macérer, ça va vous faire un champagne blanc.
Et dans la couleur, on le voit justement,
non,
la différence?
Non, vous n'allez pas le voir. Hein. Le jus est blanc, quel que soit le cépage que vous avez, si vous ne laissez pas macérer.
Donc, qu'est-ce qui ressort alors de cette dégustation par vos experts, justement? Si on veut être sûr d'avoir du bon champagne, on se dirige vers quoi? Quelles seraient les valeurs sûres là, dans tout ce qu'on vient de dire, déjà en fonction de millésimé, pas millésimé, brut, pas brut, blanc de blanc, enfin... Vers quoi on se dirige plutôt?
Alors, la dégustation de champagne, elle bouge un peu. Hein. Les gens le consommaient peut-être beaucoup pour le dessert. Maintenant, on en consomme beaucoup à l'apéritif, par exemple. Ça va dépendre du moment de dégustation aussi que vous souhaitez avoir. Par exemple, pour les champagnes, on va dire classiques, etc., hein, c'est toujours le bienvenu à l'apéritif, par exemple. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Les champagnes millésimés, par exemple, ils ont un style un peu plus vineux, hein, qui va bien s'accorder avec le repas, par exemple.
D'accord. Et si on choisit un champagne millésimé, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux aller sur certaines années? Je crois qu'il y a quand même deux millésimes, hein, qui sortent du lot dans votre enquête.
Oui, oui. Alors, en champagne, on a... 2012 qui est connu comme une très belle année, 2015 aussi plus récemment. Bon après effectivement c'est ce qu'on peut appeler des valeurs sûres, ou en tout cas des bases sur lesquelles on peut faire ses choix. Maintenant il y a des années qui sont un peu moins bonnes et pour lesquelles les producteurs ont très bien travaillé également.
2012 très bonne année parce qu'ensoleillement particulier, c'est ça, hein, Sylvie?
Oui, c'est ça. Très bon ensoleillement.
Donc c'est une année à retenir, en tout cas, si on ne sait pas trop choisir laquelle.
Mais Sylvie, ce sont des champagnes qu'on peut trouver dans la grande distribution, hein. C'est bien ça. Vous n'avez pas du tout intégré les champagnes des grandes maisons comme Ruinart ou Dom Pérignon.
Alors, il y a aussi des Ruinart vendus en grande distribution. Mmh. C'est ce qu'on appelle le sélectif. Alors, on en met toujours un petit peu, dans nos sélections. Mais après, bon, on n'a pas de Dom Pérignon là. On a un Mum, on avait un Ruinart l'an dernier. On fait tourner un petit peu toutes ces marques.
Alors, on le disait tout à l'heure, mais est-ce que le prix au final, Antoine, d'une bouteille de champagne est un gage de qualité pour les consommateurs? Qu'est-ce qui ressort de votre enquête? Pas du tout, hein, j'ai l'impression, vraiment.
Eh bien non, effectivement. Hein, nous, on montre effectivement... Enfin, ce qui intéresse le consommateur avant d'être la qualité, c'est surtout le rapport qualité-prix. Et donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans nos analyses, qui montrent que, notamment, certaines marques de distributeurs s'en sortent très très bien cette année.
Et quand même, on peut faire confiance à la réputation de certains grands noms, grandes maisons. Je pense à Mum, vous le citiez à l'instant. Est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés ou la qualité peut vraiment varier d'une année sur l'autre?
Alors justement, en fait, ce qui va faire la différence, par exemple, entre les marques de distributeurs et des grandes marques comme celles que vous citez, ça va être la variabilité d'une année sur l'autre. Vous avez des marques, une marque, ça représente une identité, un goût particulier. Si c'est quelque chose que vous aimez, bah, continuez à consommer cette marque et vous avez peu de chances d'être surpris en bien ou en mal d'une année sur l'autre.
Ça change pas beaucoup d'une année sur l'autre.
Non, alors qu'une marque de distributeur, par exemple, elle peut changer ses approvisionnements d'une année sur l'autre et donc vous allez avoir... des champagnes qui peuvent beaucoup bouger. C'est pour ça qu'on les intègre très régulièrement à notre échantillonnage.
Mais moi, je dois avouer que je ne savais pas trop, hein, justement, que les marques de distributeurs comme Carrefour, Monoprix ou même Lidl avaient leur champagne et que vraiment, dans le magazine, ce qui est très étonnant, c'est que ce sont de bonnes surprises. Hein.
Oui, totalement. Alors, en fait, on s'aperçoit en plus, donc effectivement, ils font des commandes énormes de champagne. Hein, ça permet de vendre à des volumes très importants des champagnes sous leur propre marque. Hein. Effectivement, le consommateur ne se rend pas forcément compte que c'est leur propre marque. Mais,
oui, il n'y a pas écrit Lidl sur la bouteille.
Ah, effectivement, non.
Ça reste des étiquettes, très jolies étiquettes.
Ça reste des jolies étiquettes, etc. Et puis, on s'aperçoit aussi, mais c'est le cas dans le vin en général, qu'il y a de plus en plus de distributeurs qui recrutent des œnologues ou des experts, etc., qui montent en qualité dans leur cave, en tout cas.
Je pense qu'il est temps de passer au foie gras.
Oui, c'est vrai. On a bien bu avec modération. Voilà.
Déjà, alors, lequel on va servir à Noël? Déjà, malgré tout ce qu'on entend, je crois que c'est toujours un produit ultra plébiscité pour les fêtes. Je crois qu'il y a 78% des Français qui disent qu'ils en veulent sur leur table.
Sur leur table de Noël.
C'est pas étonnant, ça, Sylvie, avec tout ce qu'on a entendu?
Par rapport, par rapport à
la souffrance animale.
Si, alors après, les producteurs répondent à ça en disant maintenant il y a quand même, c'est encadré différemment et notamment je parlais tout à l'heure des producteurs du sud-ouest où ils suivent vraiment des cahiers des charges, etc. Où, alors déjà il faut savoir qu'il n'y a plus d'animaux en cage, élevés en cage, ça c'est clair, c'est pour tout le monde. Donc, mais sur l'IGP des canards du sud-ouest par exemple, il y a vraiment, ils s'engagent à avoir des parcours, les canards sont en pleine nature et la période de gavage est beaucoup plus restreinte.
Alors justement, comment vous avez fait votre enquête, Sylvie, dans ce magazine, sur ces produits? Là, c'est un test sensoriel aussi. Qui c'est qui a testé? Enfin, comment ça s'est passé?
Alors, contrairement aux tests pour les champagnes, là, on a fait appel à des amateurs de foie gras. Donc
et vous ne nous avez pas appelé, quoi. C'est ça aussi, franchement. C'est pas normal.
On ne pouvait pas être jugé parti. Nous non plus, on ne goûte pas.
C'est ça.
On n'a plus grand regret.
Non, nous, on regarde seulement. Non. Blague à part, contrairement au vin, où on fait toujours appel à des professionnels, le vin ou champagne, qu'importe, là, on a fait appel à des amateurs de foie gras, c'est-à-dire à des gens qui mangent du foie gras régulièrement, pas tous les jours non plus, mais voilà, et qui
au
en
moins
achètent.
Tous les Noëls, quoi,
voilà, qui en achètent régulièrement.
Et alors, qu'est-ce qui a justement plu ou déplu à vos 60 hein, dégustateurs? On dit ça, dégustateurs, oui.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui leur a plu? C'est quoi les qualités essentielles d'un bon foie gras? Je sais pas, la texture, le goût.
Alors, la texture est très très importante.
Ah, oui.
Les gens aiment les foie gras un peu fermes. On est attentif à ça, au goût. Il faut qu'il y ait un goût prononcé, mais pas trop. Il faut que ce soit pas trop salé. Il y a des foie gras qui ont été pénalisés parce que trop salé.
Oui, trop mou. Hein. J'ai vu aussi
oui,
trop mou,
voilà,
ça ressort.
Hein,
quand c'est trop mou,
etc.
Ils sont pénalisés.
Oui,
hein, ouais.
Il y a une marque très célèbre, notamment, qui a été pénalisée pour ça. Voilà. Et l'aspect, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit trop clair, le foie gras. Et on n'aime pas aussi voir le gras.
Ouais. Quels sont les produits là aussi que vous avez sélectionnés? Que du français, ça vous nous l'avez dit, parce que vous n'avez pas fait tellement d'entrées de gamme, donc pas de produits a priori étrangers.
Oui.
Et puis quel type de foie gras du coup? Ça va de quoi, alors, de quoi à quoi?
Alors foie gras essentiellement de canard, parce que les ventes se font, comme disait Antoine tout à l'heure, on s'appuie sur des études de marché, donc c'est 95% des ventes, je crois, se font sur du canard. Donc que
pas
du canard,
hein,
voilà. Et là pour le coup, vendu en supermarché ou sur des sites des fabricants régionaux.
Et c'est quoi cette histoire de label? Comme le label rouge, ça veut dire quoi? Est-ce que ça, c'est un gage de qualité?
Alors plutôt oui. Alors ça, je pense qu'Antoine fera plus.
Oui, alors vous avez en fait pour le foie gras, vous avez un label rouge qui existe pour beaucoup de produits animaux. Le label rouge, ça donne effectivement un cahier des charges plus contraignant pour l'agriculteur. Ça augmente les coûts de production, donc nécessairement le produit sera plus cher. Par exemple, vous avez le droit à plus de 100 jours le canard ne peut pas être abattu avant 102 jours contre 90 jours pour un canard classique. Le temps de gavage est aussi réduit à 10 jours contre 12 jours pour un canard classique. Et puis, dans le label rouge, très important, vous avez des critères sensoriels qui rentrent en compte.
Ce qui n'est pas le cas forcément pour les autres.
Non, exactement. Par exemple, le label biologique, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas de...
Bon, il peut être bio, mais pas bon. Mais par contre, le label rouge, a priori, il est au moins un peu bon. Quoi.
Exactement. Le label rouge, quelle que soit la catégorie de produit à laquelle vous avez affaire, vous avez des critères de dégustation.
Donc, c'est un bon repère pour le consommateur.
Ça peut être un très bon repère pour le consommateur, effectivement.
Et pour le champagne, comme pour le champagne, je veux dire, est-ce que le critère de prix, est-ce que les foie gras les plus chers dans votre panel ont été ceux qui ont été le mieux notés par les dégustateurs ?
Non, pas du tout. Il y a une marque très célèbre qui est arrivée en queue de peloton.
Labeyrie et Fauchon sont pas bien succès dans le magazine.
Ouais. Et je crois que Fauchon est à 267 € le kilo que vous rapportez au kilo, alors que le numéro 2 qui est un producteur est deux fois moins cher. Je crois qu'il est à 118 € le kilo.
Et bien mieux noté.
Voilà. Ça vaut le coup de se pencher sur la question. Effectivement, comment bien choisir son champagne et son foie gras. Merci à tous les deux. Vous restez encore un peu avec nous. On va continuer à voir ce que vous nous conseillez pour bien choisir ces produits de fête. Et ceux qui seront sur nos tables de réveillon. D'ailleurs, je le rappelle, on vous donne la parole dans Bienfait pour vous. Donc, laissez-nous toutes vos questions au 3921, notre répondeur, ou encore sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ou sur le compte Instagram de l'émission.
11h30 sur Europe 1, Bienfait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. On choisit le champagne et le foie gras qui seront sur nos tables de fête cette année. Et on fait ce choix cornélien grâce à notre partenaire aujourd'hui, le dernier numéro du magazine 60 millions de consommateurs, dont vous êtes rédactrice en chef Sylvie Metzelaar. Avec nous également Antoine N15, ingénieur agroalimentaire à l'INC, l'Institut National de la Consommation. D'ailleurs, moi, je me demandais, parmi les 24 foie gras que vous avez testés, ils sont tous français. Bon, ça, on sait, mais dans le commerce, il faut se méfier, non ? Parce que certains viennent de pays un peu exotiques, non ?
Exotique, peut-être pas.
Non,
mais
pas très exotique. C'est beaucoup la Bulgarie. Voilà. Bulgarie, Hongrie,
ce que j'appelle exotique. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé.
Effectivement, Bulgarie, il y a une énorme production du côté de la Bulgarie et de la Hongrie également.
Et alors, ils sont bien ces produits-là ?
Bah, il commence à arriver sur le marché français, effectivement. Mmh. Maintenant, le produit français résiste encore un peu.
Oui,
et
puis si on a du bon foie gras en France, on aime bien le circuit court, autant consommer français.
Ça ne viendrait pas l'idée de prendre un foie gras végétal.
Jamais de la vie pour moi non plus.
Vérifiez bien sur vos foie gras parce qu'ils sont dans les marchés, ils sont dans les supermarchés.
Aussi
sur les marchés, etc. Donc regardez bien l'origine de votre foie gras. D'accord. Effectivement, il sera généralement moins cher.
Alors, dans votre étude, vous distinguez, vous l'avez dit, les foie gras entiers et les blocs avec morceaux. Et ce sont les blocs qui ont été les mieux notés. C'est une surprise, non, Sylvie ?
Oui, j'ai tendance à dire oui, parce que effectivement, on pense que un foie gras entier est plus qualitatif qu'un foie gras avec morceaux. Alors bon, il faut croire que les gens préfèrent voir des morceaux. Ça montre bien qu'on mange du foie gras. Mais oui, voilà, c'est une petite surprise.
Alors on a une question d'Adèle de Montluçon sur Instagram. Elle dit « Je déteste les nerfs dans le foie gras. À quoi on peut voir qu'un foie gras a bien été énervé ?» Est-ce que on peut le voir dans un pot transparent ? C'est une bonne question, ça.
Il y a eu des nerfs dans vos foie gras à tester ou pas ?
Pas tellement. Hein.
Très peu. Alors nous, on a fait effectivement une analyse, ce qu'on appelle histologique sur les foie gras, c'est-à-dire une observation des tissus pour voir...
Au microscope, c'est ça,
pour voir la qualité des chairs, donc le taux de graisse, s'il y a éventuellement des morceaux d'os, de nerfs, etc.
Ça va, ils sont clean de ce côté-là ?
Ouais. Les résultats sont quand même en moyenne très bons. Il y a une référence peut-être sur laquelle on a trouvé un petit morceau de nerf, mais il n'y a rien d'alarmant.
C'est anecdotique
dans l'enquête. C'est pas agréable, mais ça reste loin d'être alarmant.
Et vous ne pouvez pas le voir à travers le bocal ?
On peut pas.
C'est au cœur du truc.
Donc c'est au petit bonheur la chance.
Vous l'avez déjà acheté, c'est trop tard.
Ouais. Sinon, vous l'achetez cru, vous le dénervez et puis vous le préparez.
Non, mais là, vous adressez à Julien Vignali, c'est pas non plus.
Vous le faites comment, votre foie gras ?
Non, moi je le fais pas, j'avoue. Mais je vais peut-être. On a une recette, vous verrez, on la donnera la semaine de Noël. Et
c'est compliqué
pas si
à faire ce que vous nous expliquez là. Ouais.
Non, c'est simple.
Oh bah j'essaierai volontiers. On a une autre question, Mélanie.
Oui, de Marina dans l'Oise au 3921. Notre répondeur, elle dit qu'elle préfère acheter son champagne, des champagnes peu connus et conseillés par son petit caviste qui connaît même les producteurs, dit-elle. Pensez-vous que ce soit une démarche qui garantisse une meilleure qualité ? Sylvie ?
Oui, j'aurais tendance à dire oui, parce que plus on se rapproche des producteurs, plus on connaît les producteurs, et si vous faites confiance à votre caviste, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bien. Alors, pour les cavistes, je dirais aussi pour les grandes marques. Parce qu'on dit tout à l'heure qu'en grande surface, ce qu'on a pu tester, nous, ce n'était pas terrible. Il faut aussi relativiser les choses. Ça ne veut pas dire que les produits, les grands noms ne sont pas bons. Mais il faut savoir quand même que comme ils sont moins achetés en grande surface, il y a moins de débit. Donc, vos bouteilles grands noms, gros prix hein, aussi, accompagnées, ça reste plus souvent. Donc, dans des conditions pas forcément optimales toujours. Donc, ça peut dégrader votre champagne.
Bah oui, il faut faire attention à ça. Il y a une charte à respecter pour un bon foie gras. Je ne sais pas, sur la quantité de graisse, par exemple. Vous avez analysé d'ailleurs, je crois, un des 24 produits au microscope. Antoine, qu'est-ce qu'il en ressort ?
Voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, les résultats... ce qu'on appelle les analyses histologiques sont plutôt bonnes. Hein. Effectivement, on va regarder le taux de gras. Il y a un minimum à respecter, évidemment. On est sur du foie gras, on n'est pas sur du pâté. Voilà, les cahiers des charges sont assez précis et il y a effectivement un cahier des charges à respecter là-dessus.
Puis si on s'est loupé, on le donne aux enfants, on lui donne du pâté. Voilà,
exactement.
On peut faire ça aussi. Hein. Normalement, on a parlé tout à l'heure un tout petit peu en début d'émission, mais la souffrance animale étant un sujet dont on parle de plus en plus, et c'est heureux, hein, depuis quelques années, est-ce que ça influe sur la consommation de foie gras actuellement en France ?
Non, pas tant que ça. Alors, un petit peu, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a baissé en volume, donc on en achète un peu moins. Alors, il y a eu aussi toute la période Covid.
Et le
y
a Covid
eu
a aussi... joué, c'est marrant.
Hein, non, c'est surtout la loi Egalim. Mmh. Antoine, tu peux peut-être
c'est quoi,
plus
cette
préciser.
Quoi
voilà. Alors, en fait, la loi Egalim, elle a encadré les promotions. Mmh. Vous n'avez pas le droit de vendre plus de 25% de vos volumes en promotion. Mmh. Donc les promotions aussi qui sont encadrées, vous n'avez pas le droit de vendre à plus de moins 33%. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Donc, et le problème, c'est que les foie gras sont vendus en majorité en promotion à Noël.
Donc ça fait baisser les ventes.
Pareil pour les champagnes, effectivement. Voilà, ça a mécaniquement beaucoup fait baisser les ventes puisque les foie gras se sont retrouvés beaucoup plus chers en moyenne. Maintenant, il y a eu une dérogation qui a été accordée récemment qui va être effectué pour cette fin d'année et puis pour la fin d'année prochaine.
Et le bio, parce que le champagne bio, on n'en a pas parlé.
Il y en a maintenant, je crois, dans votre sélection.
Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'ils s'en sortent bien, ces champagnes bio ?
Le bio, alors ça reste encore anecdotique dans le champagne. On est à autour de 5% des volumes, hein, je crois. Le bio, il est capable du meilleur comme du pire. Vous voyez, par exemple, nous, dans la catégorie brute, le premier champagne est un bio et le... Et il y en a aussi qui se trouvent en queue de classement. Donc en fait, difficile de savoir. Le bio, traditionnellement, ça a été plutôt instauré par des viticulteurs que des vignerons. Donc c'est encore une démarche environnementale qui arrive et qui commence à s'améliorer doucement, que ce soit dans le champagne ou dans le vin en général.
Il y a une question de Mathieu sur Facebook qui nous a écrit, qui nous dit combien de temps peut-on garder son champagne avant de le consommer ? Est-ce que comme le vin, il se bonifie avec le temps ?
Non. Alors, bonne question. Alors, j'aurais tendance à dire non, effectivement, je suis d'accord avec Sylvie. Après dégorgement, c'est-à-dire une fois qu'on a retiré les levures de la bouteille, le champagne, la bouteille commercialisée, il risque de pas beaucoup bouger. Même au contraire, si vous le laissez à la lumière, à la chaleur, etc., il risque de cuire un peu. Et donc, ça va lui donner des goûts pas très bons. Alors, si vous avez une cave, évidemment, vous pouvez le garder. Mais globalement, je pense qu'il y a peu de chances pour que...
Étant donné vos connaissances, il doit être bon le champagne chez vous.
Moi, je voudrais bien. Vous avez l'air de vachement vous y connaître. Et une fois qu'on a débouché la bouteille, il faut la boire vite.
Si vous aimez le champagne effervescent, oui.
Il faut faire vite.
Sinon, vous n'avez plus de bulles.
C'est rarement une problématique qui se pose.
Vous avez raison. Même s'il faut boire avec modération. Merci à tous les deux pour cet éclairage plus qu'utile à quelques semaines des réveillons et des festivités. Ça fait du bien de se projeter, je trouve, Mélanie.
D'accord.
Et donc, pour davantage d'informations, je vous conseille le dernier numéro du magazine 60 millions de consommateurs.
Merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, on va changer de sujet, Julia. On va parler de génétique, mais hyper simplement, vous verrez. On va vous révéler des secrets incroyables de notre corps humain qui s'expliquent justement grâce au progrès de la génétique. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
On va donc s'intéresser à notre organisme et à certains de ses secrets du côté de nos gènes et de nos muscles, notamment ce matin. Et pour en savoir plus sur tous ces mystères, vous êtes avec nous aujourd'hui, Serge Braun. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur scientifique de l'AFM Téléthon. On va apprendre une première chose étonnante avec vous. Il paraît qu'on peut améliorer sa mémoire avec l'activité physique. Moi, j'ai bien envie que vous nous expliquiez comment c'est possible.
En fait, et on risque de plus avoir beaucoup de mémoire dans quelques temps. Julien, on ne bouge pas assez.
C'est vrai.
C'est très simple. Le muscle, c'est aussi un organe qui sécrète beaucoup de substances. Et il sécrète notamment des protéines qui assurent la survie des neurones. Mm-hmm. Et elles circulent dans le sang, elles vont au cerveau, elles vont vers la moelle épinière. Et ça contribue effectivement à la mémoire. Donc l'exercice est bénéfique pour plein de choses, y compris le cerveau.
Et donc, si on fait du sport, plus de sport, ça veut dire qu'on a plus de neurones. Est-ce que... Parce que parfois, quand on entend certains sportifs, c'est pas évident.
Oh, méchante.
Il faut faire de l'exercice modérément. C'est comme tout. C'est comme le champagne.
Ouais. C'est ça, toujours avec modération, c'est le secret.
Bon, en tout cas, est-ce que ça, c'est valable pour tous les sports ou quand même certains sports sont plus efficaces pour les neurones ?
Justement, l'exercice modéré, ça veut dire la marche, la danse, sont des sports qui sont très bien pour...
Oui, alors que la boxe, tout ça, on évite, j'imagine. C'est
ah
pas
ben
la même.
Oui, parce qu'en plus, les coups, le cerveau n'aime pas du tout.
La D'accord. danse, justement, je crois qu'il y a des travaux sur la sarcopénie, hein, qui on va expliquer ce que c'est justement dans une seconde, mais qui ont montré que justement, c'était un des sports qui permettait de vivre le plus longtemps en forme, quoi, hein, c'est ça ?
Oui, et c'est ce type d'exercice modéré, hein, danse, marche... Et utile pour des myopathies aussi, pour essayer de préserver les muscles.
Le muscle, alors vous en parliez, fait baisser apparemment aussi le cholestérol. Comment ça agit, ça ?
Ben, il y a deux organes qui sont très consommateurs de cholestérol, c'est le cerveau et le muscle. Mm-hmm. Et le muscle fait baisser le cholestérol parce que pour constituer ses membranes, pour fonctionner, c'est quand même la moitié de la masse de l'organisme, les muscles. Il a besoin de cholestérol, donc il le fait baisser. D'où aussi l'impact de l'exercice. Faire du sport, ça fait baisser le cholestérol.
On a dit aujourd'hui qu'on serait dans tous des petits mystères et des petits secrets de nos muscles et de nos gènes. C'est quoi le plus petit muscle du corps d'ailleurs ?
Alors c'est un muscle qui s'appelle le muscle stapédien. Il est tout petit, il fait 2 mm et il se trouve dans l'oreille.
Ah oui,
En fait, il fait bouger l'étrier, en fait, tout le système, le marteau et l'étrier qui réagissent, c'est les petits os qui réagissent aux vibrations. Et le muscle maintient tout ça. Tout ça, ça va ensuite créer un courant électrique qui va aller vers le cerveau. Donc, les muscles permettent d'entendre.
D'accord. Et apparemment, on peut être musclé sans sport. Alors ça, comment c'est possible ?
Ah oui, alors lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un camarade de classe qui était extrêmement musclé. Il ne faisait absolument pas de sport.
Oui,
c'était une montagne
tous.
De muscles.
Ouais.
Et en fait, on s'est rendu compte, en étudiant notamment des bovins riches en viande, la viande, c'est le muscle, hein, ce sont des muscles. On s'est rendu compte, chez ces races qui avaient été sélectionnées, qu'en fait, c'était des mutants, c'était des variants. Ils avaient une mutation dans un gène particulier qui s'appelle la myostatine. C'est une hormone qui freine la croissance musculaire. Et cette hormone n'étant plus active, du coup, la masse musculaire est énorme.
Ah, donc voilà. C'est des mutants. Très
c'est
bien.
Des mutants.
Serge Braun, on n'en a pas fini avec vous. On va continuer ce point étonnant ce matin à vos côtés sur certains secrets de notre corps humain qui s'éclairent quand on creuse un peu plus hein, du côté de nos gènes et de nos muscles. Et c'est justement ce que permet le Téléthon qui va démarrer dans quelques jours. On en parlera aussi. Financer des travaux de recherche pour des maladies rares, en fait, ça bénéficie à tous. On y revient dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1. 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, on parle de santé. Et plus précisément, on perce certains mystères de notre corps humain avec notre invité Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Alors, on parlait déjà juste avant de nos muscles. Hein, mais le muscle vital du corps, c'est le cœur. Constitue tous, a priori, à gauche. Hein, mais il se trouve, vous allez nous expliquer pourquoi, qu'il y a des personnes qui ont leur cœur à droite dans la poitrine. Comment c'est possible, ça ?
Bah, c'est un petit défaut génétique qui est à l'origine de ça. Et il n'y a pas que le cœur, d'ailleurs, qui est concerné. Parce que
tout est inversé, après ?
Ça peut être le cœur ou tous les organes. C'est une personne sur 15 000. C'est quand même pas
c'est
rien.
C'est fréquent, quand même. Ouais. Hein, ouais.
Ah oui, ouais. C'est énorme. Mmh. Mais c'est pas grave ?
Non.
D'accord.
Quand l'inversion est complète, bah, on vit normalement. Hein.
Alors à vous, à l'AFM Téléthon, votre spécialité, c'est depuis 35 ans la lutte, la recherche contre de nombreuses maladies génétiques notamment. On va en parler dans un instant, mais avant cela, il faut savoir que nos gènes font que nous sommes tous uniques hein, en notre genre, et même des choses très bizarres, ce sont nos gènes par exemple qui déterminent si on est capable ou non de rouler notre langue.
Vous savez le faire vous, Julia ?
Absolument pas, je suis très vexée dans ce coup. Vous savez le faire, vous ?
Non.
Donc ça veut dire que tous les trois, on ne sait pas le faire, donc quoi ?
Non, et du coup, ça m'évite de le faire. Et en fait, c'est à peu près 30% de la population qui ne peut pas le faire.
Ah, donc on est plus rare que ceux qui savent le faire, en fait.
Voilà. Et ça change quoi par rapport aux autres ? On est moins intelligent ?
Rien du tout. Rien du tout. C'est un ensemble de gènes qui contribuent à la formation de la langue, et notamment le frein.
Rouler la langue, c'est faire un tube avec la langue. Hein, ouais. Arriver à remonter les deux côtés comme ça.
Et c'est un problème de frein, ça ?
C'est un problème de frein de langue, donc c'est anatomique. Hein,
mais l'explication est génétique, hein, je crois.
L'explication, c'est un ensemble de gènes.
Oui. Et je pourrais m'entraîner toute ma vie, j'y arriverai jamais ?
Non.
Ok.
D'accord. J'ai fait peut-être un petit peu, oui. C'est une question de muscles, hein, et la langue, c'est un ensemble de muscles.
Mais c'est fou.
Le monosourcil aussi, c'est quelque chose de génétique, je crois.
Oui.
Je pensais que c'était un problème esthétique aussi, mais c'est génétique.
Oui, c'est un gène qui est connu et qui est petit défaut aussi, mais bon.
Ça s'épile, hein, ça c'est facile. Ouais. Alors, digérer le lait ou pas, ça aussi, c'est une histoire de génétique. Ça, je veux bien que vous nous expliquiez.
Oui, c'est en fait, au fur et à mesure des générations, on a des petites variations dans notre génome qui apparaissent. Et comme les virus, hein, on est des variants. Mmh. Et un variant est apparu il y a à peu près 4000 ans dans une population qui a été capable, qui est devenue capable de digérer le lait. Et c'est en fait une enzyme qui est fabriquée grâce à ce gène, une lactase, et qui permet de digérer, de casser le lactose qui est présent dans le lait. Mmh.
Les personnes aux cheveux et aux yeux très clairs, alors c'est très joli, mais ce serait la manifestation aussi de gènes qui seraient restés en sommeil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
En fait, la couleur des yeux, des cheveux, de la peau est conditionnée par la production d'une protéine qui s'appelle la mélanine, et il y a plusieurs gènes qui interviennent dans la fabrication de cette protéine, et c'est en fonction de la combinaison de ces gènes, c'est un peu comme les couleurs, hein, on mélange trois couleurs, on peut faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin toutes les couleurs possibles et imaginables, même le blanc. Donc c'est un peu pareil pour la couleur des poils et des yeux et de la peau. C'est un ensemble de gènes qui sont combinés. Certains vont fonctionner plus que d'autres, et c'est ce qui donne une coloration plus ou moins foncée.
Alors j'ai très envie de vous poser une question qui me semble compliquée. À quoi ça ressemble l'ADN ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment ce que c'est ?
Et vraiment simplement.
L'ADN, vraiment simplement parce que...
L'ADN, c'est un petit filament très fin qui fait 2 nanomètres, c'est-à-dire 2 milliardièmes de mètre.
On ne le voit pas.
Mais qui fait 2 mètres de long.
Mais non, c'est long.
Comme il est très replié sur lui-même, on ne le voit pas. Il tient à l'intérieur de cellules qui sont elles-mêmes très petites. On est un ensemble de 100 000 milliards de cellules qui font moins de 0,1 mm. L'ADN, c'est comme une échelle qui est torsadée, c'est une double hélice, et qui est un enchaînement de petits barreaux. Ce sont des petites molécules, il y en a 4 différentes. On peut les symboliser par des lettres, A, T, G, C. Et c'est l'ordre de ces barreaux qui forme cette grande échelle qu'on appelle le code génétique. C'est un peu comme l'informatique. L'informatique, c'est 0 et 1.
Binaire.
Mais la génétique, c'est ATGC. Et c'est de l'information qui permet à la cellule, ensuite, d'assembler des acides aminés pour former des protéines.
Et personne n'a la même hélice, le même enchaînement, sauf les vrais jumeaux, ou même eux, il y a des différences ?
Alors, l'ADN, c'est 3,2 milliards de lettres. C'est-à-dire 3000 volumes du code pénal, pour donner l'ordre de grandeur. Et à chaque fois qu'une cellule se divise, elle doit recopier son ADN et elle va faire des erreurs. Comme nous, on ferait des erreurs si on devait recopier un texte. Et donc, il y a des petites variations sur ces 3 milliards de lettres. On a quelques millions de différences entre nous, ce qui fait que nous sommes tous un petit peu différents. Même les vrais jumeaux. Alors, les vrais jumeaux, a priori, sont plus proches génétiquement que n'importe qui.
C'est eux qui ont le moins d'erreurs dans le code. Hein.
Ils ont le moins d'erreurs. Ils en ont quand même un petit peu, puisque dès qu'ils sont séparés, que l'œuf va donner 2 fœtus, ce sont des cellules qui vont se diviser au fur et à mesure. Elles vont faire des erreurs et qui sont différentes d'un individu à l'autre, y compris jumeaux.
Alors, plus l'organisme est gros, est-ce qu'on a plus
de
gènes ? Il y a
deux codes civils dans le corps.
Oui, c'est bizarre. Mais c'est une drôle de question, mais est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire, plus on a un organisme gros, plus on a de gènes.
Non.
Ah non.
Alors là, il faut être très modeste. Il faut être très modeste. Les humains, c'est à peu près 20 000 gènes. Hein. Le riz, 70 000 gènes.
Okay.
Il y a plus de gènes dans le riz que chez les humains.
Voilà, c'est un peu vexant tout ça.
Il faut rester modeste. Il y a un petit verre qu'on appelle le C. elegans. C'est un petit verre de terre qui fait 1 mm. Mm-hmm. Il a 70% d'homologie avec notre génome à nous. Oh, donc, comme quoi, il faut être vraiment très modeste. Mm-hmm. Mais ça fonctionne de manière extrêmement compliquée. Là, une émission, ça ne suffirait pas pour l'expliquer. D'ailleurs, on ne sait pas tout encore. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'on est quand même beaucoup plus sophistiqué. Mais effectivement, en quantité de gènes, on n'est de loin pas les plus...
mieux servis, quoi.
Les mieux servis. Et un éléphant, il n'a pas plus de gènes que les humains.
Alors, on a fait le tour de quelques bizarreries de notre corps humain. On va quand même parler du Téléthon, évidemment, qui approche à grands pas. Le Prime sur France 2, ce sera ce samedi à 21h. Et pour bien montrer que c'est du concret, que ce sont déjà des victoires, hein, le Téléthon, depuis de nombreuses années, il y aura 14 familles, dont des bébés, hein, qui ont été traités, qui seront là en 35 ans. Ça veut dire vraiment que les progrès ont été immenses. On est passé de quoi à quoi, par exemple ?
Bah, on est passé d'un désert scientifique avant le premier Téléthon, et on parlait de génétique, mais on ne connaissait même pas les gènes responsables de maladies génétiques. Il fallait des années de travail pour un laboratoire pour essayer d'identifier un gène, et sans garantie de succès. Et grâce au Téléthon, il y a eu les cartes du génome humain qui ont été publiées par le laboratoire Généthon créé grâce au Téléthon. Ça a bouleversé la connaissance de la génétique au global, et ça a permis d'imaginer des thérapeutiques. Mm-hmm. Et maintenant, on arrive dans une ère où on recueille tout ce qui a été semé. C'est vraiment le fruit de ce qui a été semé. Effectivement, les 14 familles, c'est une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale infantile. C'est une maladie qui touche la moelle épinière, qui paralyse les enfants, qui ont une espérance de vie de 2 ans dans les formes les plus graves, qui est absolument terrible, et qu'on arrive à sauver. Lorsqu'on les traite très tôt, ils ont un développement normal. Ils peuvent respirer tout seuls, ils peuvent marcher, ce que la maladie ne leur permettait pas. Et ça a vraiment complètement changé la donne. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique, une des pistes de recherche.
Alors, cette thérapie génique, est-ce qu'il y a des médicaments justement issus de cette thérapie-là sur le marché actuellement ?
Alors maintenant, oui, ils commencent à arriver. Il y en a en Europe et aux États-Unis, il y en a 17. Et sur les 17, il y en a 5 qui doivent directement aux recherches grâce au Téléthon, que ce soit dans les laboratoires issus du Téléthon ou des laboratoires financés par le Téléthon.
Ça veut dire que tous les patients qui en auraient besoin peuvent déjà en bénéficier ?
Oui,
d'accord.
Y compris évidemment des patients français. Et il y a 7 autres médicaments qui ne sont pas développés pour des maladies génétiques ou des maladies rares, mais qui sont développés en cancer, mais qui utilisent les principes de thérapie génique qui ont été établis pour les bébés bulles, qui est une maladie rare du système immunitaire. Et d'ailleurs, c'était des travaux qui étaient menés par Alain Fischer, qu'on connaît bien.
Bien sûr, notre monsieur vaccin. Oui. D'ailleurs, il y a des progrès, hein, justement. Il y a eu des progrès grâce au Téléthon, vous en venez d'en parler, pour des maladies rares, mais vraiment pas seulement. Les recherches faites pour le Téléthon, elles servent à des maladies beaucoup plus fréquentes, notamment, je sais que vous travaillez beaucoup sur des maladies rares de la vision, et là il y a des choses qui sont développées qui pourront peut-être servir à traiter un jour la DMLA, la dégénérescence maculaire, voilà, liée à l'âge. C'était notre sujet de lundi. On en est proche.
Oui, alors il y a deux grandes voies. Il y a la thérapie génique. En fait, la DMLA, c'est un problème de vascularisation de la rétine ou de dégénérescence des neurones de la rétine. Et on connaît des gènes qui permettent d'interférer avec ces mécanismes-là et qu'on peut administrer dans l'œil grâce à des procédés qui ont été mis au point pour des maladies génétiques de la vision. Et puis, il y a une autre voie qui est développée par un autre laboratoire du Téléthon qui s'appelle ISTEM, qui est à Évry. Et c'est la thérapie cellulaire. On reconstitue de la rétine à partir de cellules souches et on peut déposer un peu comme un patch de rétine sur le fond de l'œil.
Pour la réparer.
Pour la réparer. Et ça, c'est non seulement pour des maladies génétiques de la rétine, mais c'est applicable aussi à la DMLA.
Bon, très bien. Et pour que tous ces progrès continuent, eh bien, il faut toujours plus d'argent. Donc, je le rappelle, le Téléthon, c'est très bientôt. Ce sera le 3 et le 4 décembre. Mais vous pouvez d'ores et déjà faire un don sur téléthon.fr. On compte sur vous. Merci beaucoup, Serge Braun, d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite un très bon Téléthon et encore plein de dons cette année.
Merci. Oui, merci beaucoup, docteur. À présent, Mélanie, on va passer à notre séquence tendance. Il y aura d'abord de la gastronomie. On va parler de citron caviar avec Margot Grossman, puis Nathalie Le Breton qui nous présentera une sélection de livres jeunesse, et enfin Philippine Darblay qui va terminer l'émission sur un autre produit de fête, le caviar. Et ben voilà, on se fait plaisir sur Europe 1. Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Voici donc le programme d'Europe Midi. 47 000 cas de Covid en France en 24 heures. On ira à Strasbourg dans Europe Midi. Pourquoi Strasbourg ? Parce que la préfète a décidé de serrer la vis au marché de Noël de la ville où les règles barrières étaient inégalement respectées. Ça va changer, on sera en direct avec Mélina Fachin. Les militants, les Républicains votent depuis ce matin pour élire leur candidat à la présidentielle. Alexandre Chauveau nous donnera le taux de participation à la mi-journée et nous dira que tout est possible en termes de résultats. Bien sûr, il y a 5 candidats, je vous le rappelle. Plus de 7 millions de téléspectateurs pour suivre l'interview d'Éric Zemmour aux 20h de TF1 hier soir. Plus de 30% de part d'audience. Éric Zemmour qui a vivement regretté de ne pas avoir été interrogé sur son programme. Il a qualifié Gilles Boulot, le présentateur du 20h de TF1, de procureur. Prochaine étape dans la campagne d'Éric Zemmour, le Zénith de Paris dimanche prochain. Les informations de Victor Chabert dans Europe 1 et Europe Midi plus précisément. Et puis on vous racontera comment un homme vient d'être arrêté 27 ans après le meurtre d'une lycéenne. Ça se passe en France. Son ADN relevé dans une affaire de violence conjugale a matché, comme on dit, avec l'ADN retrouvé sur les lieux du crime en 1994. Voilà le programme d'Europe Midi. On se retrouve dans une demi-heure.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on vous prend par la main tous les jours avec Mélanie Gomez. Notre objectif, il est tout simple, c'est que vous vous sentiez bien ou mieux après nous avoir écoutés. Et donc à midi 3 exactement, c'est toujours votre appétit qu'on aiguise avec la chronique gastronomie. Aujourd'hui, c'est Margot Grossman qui en a les rênes. Bonjour Margot.
Bonjour.
Alors je crois que vous nous proposez de travailler un produit un petit peu acide hein, ce midi.
Tout à fait, le citron et le citron caviar.
Ah, il n'est pas très connu hein, celui-là.
En tout cas, on le voit de temps en temps, mais c'est pas partout. Ensuite, ce sera à vous, Nathalie Le Breton, votre madame livre jeunesse. Et vous avez préparé une petite sélection de bouquins qui va bien aider les parents qui, comme moi, n'en peuvent plus des disputes, des chamailleries entre frères et sœurs. C'est bien ça ?
On va s'alléger la vie,
merci,
c'est génial.
S'ils pouvaient arrêter de se battre. Et enfin, c'est vous, Philippine Darblay, qui allez clôturer cette émission aujourd'hui avec un produit de fête dont on n'a pas encore parlé ici. Très simplement, le caviar. Il y a du nouveau dans le secteur ?
Bah ouais, bien sûr, et c'est pour ça qu'on va en parler. Il y a plein de tendances autour du caviar.
Vous en avez amené,
j'espère qu'il y en a. Ah oui, une petite boîte, c'est parfait. Merci beaucoup,
merci,
Philippine.
Merci, Philippine. Ce sera à vous dans quelques minutes. Mais tout de suite, place à la gastronomie dans Bienfait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Alors Margot, on va se régaler hein, en vous écoutant comme à chaque fois. Et aujourd'hui, vous nous proposez de découvrir un fruit jaune qu'on connaît très bien et qui a mis l'usage en fait.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un homme à tout faire qui frôle la perfection. Il est toujours bon d'en avoir un à la maison. C'est le citron. Du haut de ses 30 petites calories, s'il y en a bien qui ne coûte rien mais qui fait tout, c'est lui. Pour la cuisine, la santé, la beauté, l'hygiène et la maison, tout est bon dans le citron.
C'est
petite
vrai, hein.
Présentation.
Pas mal en rime en plus. Hein. C'est sûr que le citron, c'est la vie. Vous nous rappelez ses bienfaits en cuisine ?
Alors c'est l'indispensable à intégrer dans notre alimentation. Antioxydants, anti-cancer et anti-âge puissants. Il est riche en vitamine C, mais aussi en fibres, en minéraux et en oligo-éléments comme le calcium, le potassium, le magnésium et le cuivre. Alors malgré son acidité, il est alcalinisant, il va rééquilibrer le pH du corps et c'est un allié anti-courbature. On connaît le jus de citron pressé à jeun le matin dans un peu d'eau tiède pour nettoyer le foie et éliminer les toxines. Il est aussi précieux après un repas trop copieux et contre la gueule de bois, même si ce n'est pas une raison pour forcer sur le mojito, puisqu'il va faciliter la digestion.
En plus, ça se marie un peu avec tout, non, le citron ?
Bah, complètement. En fait, l'idée, c'est vraiment de prendre le réflexe d'en presser un peu partout dans nos préparations. Il va réguler la glycémie, brûler les graisses, booster l'immunité, contrôler l'hypertension et soulager les inflammations. En fait, c'est un vrai bouclier contre les agressions, notre citron. On l'utilise aussi pour conserver nos fruits et légumes fraîchement coupés, comme l'avocat, les pommes, les radis, les champignons. Ça évite qu'ils noircissent à cause de l'oxydation. Alors mieux vaut le choisir non traité ou bio, hein, surtout si vous utilisez son zeste, car c'est dans l'écorce que se cachent toutes les pesticides. D'ailleurs, plus son écorce est fine, plus il rendra de jus. On évite aussi de le cuire pour préserver ses nutriments, qui sont très sensibles à la chaleur.
Alors c'est quoi celui que vous nous avez apporté ? Il est original, hein, celui-ci.
Oui, alors si le citron classique, en fait, ne coûte rien du tout, il y en a un qui coûte quand même un peu plus cher, c'est donc le citron caviar, la crème de la crème du citron. Son prix peut monter jusqu'à 200 euros le kilo quand même.
Oh là !
Eh oui. On s'envole donc en Australie à la découverte de ce caméléon. Il en existe des verts, des jaunes, des roses, des noirs, des marrons.
Il ressemble Julia, elle mord dedans à pleines dents.
Non,
c'est
pas comme
couper.
Ça.
Hein. On va faire ça. Ah, faut le
couper. Ouais, il ressemble un peu à un cornichon hein, quand on le regarde comme ça, ou un avocat au régime. Mais quand on le coupe, bah, du coup, on découvre des petites perles transparentes remplies de jus, d'où son nom de citron caviar, hein, caviar albinos. C'est assez joli à voir.
Mmh. Alors, on dirait une grosse limace, moi, je trouve.
Franchement, c'est un cornichon. Hein.
Au départ, il était utilisé par les aborigènes pour se désaltérer. Il est devenu très prisé par les grands chefs et même en cosmétique pour ses pouvoirs anti-âge. Du coup, bah, je vous laisse le couper vous-même en fait, pour préserver sa vitamine C. Parce que d'ailleurs, après avoir coupé un citron en deux, en fait, peu importe sa variété, on a à peu près 10 minutes pour profiter de ses vitamines.
Oh, ouais, c'est beau à l'intérieur,
c'est magnifique.
Ça explose
en petite
bouillie. C'est génial. Mais comment on l'utilise? Vous, par exemple, votre petite recette préférée au citron caviar, c'est quoi?
Alors, on peut mettre quelques perles dans du champagne, des huîtres, des fruits de mer, des poissons et même des desserts. Ça va vous donner des idées pour les fêtes. Hein. C'est un produit de luxe original avec son petit goût de pamplemousse.
C'est bon.
Alors moi, c'est super bon. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est le marier avec des coquilles Saint-Jacques et du radis noir. Donc, en fait, je découpe simplement quelques petites Saint-Jacques crues, hein, très finement, en carpaccio, dans le sens de la hauteur. Ensuite, je taille un radis noir à la mandoline et je passe mes tranches de radis dans une jolie assiette. Puis, je dispose mes morceaux de Saint-Jacques par-dessus et j'assaisonne avec un peu de gingembre râpé, d'huile de sésame, une pointe de piment et un trait de sauce soja.
Vous pourrez venir à la maison me le faire, ça.
Ouais, carrément. Et pour terminer, bah, du coup, je parsème avec mes petites perles de citron caviar, une cuillère à café environ, parce que comme vous pouvez voir, c'est assez fort en goût. Et puis, voilà.
Alors, justement, le goût, hein, je précise, c'est un goût de pamplemousse.
C'est
un
ça.
Peu, mais encore plus intéressant. Enfin, je sais pas, c'est incroyable.
Moi, j'adore ça, je trouve ça génial.
Vous avez des astuces citronnées pour la beauté et la maison?
Oui, alors revenons-en à nos citrons classiques. Hein, d'ailleurs, qui aurait cru qu'un fruit remplacerait à lui seul les produits d'entretien et la trousse à pharmacie. Mmh. Alors c'est un antiseptique et désinfectant naturel, en interne ou en externe. Donc bah, pour la peau, un petit coton citronné pour assécher un bouton, éliminer les taches brunes, atténuer les cernes ou même soulager une piqûre d'insecte. On peut aussi renforcer nos ongles fragiles avec de l'huile de ricin et du jus de citron, ou se faire un gommage maison avec un peu de sucre et d'huile de coco hein, sur un demi-citron. Et à la maison, bah, une rondelle de citron dans le lave-vaisselle pour éviter le calcaire, et un demi-citron dans le frigo pour enlever les odeurs. L'écorce peut aussi servir d'allume-feu naturel.
Je savais pas.
À noter pour vos cheminées.
Pour tous les citrons
si
ou le citron caviar?
Non, le citron normal.
Ah d'accord, ouais. Ok, c'est génial.
Et du coup, bah, le citron en huile essentielle pour assainir et purifier l'air. Enfin, j'ai envie de dire, pressez-vous d'aller en acheter. Hein, il est tout bon.
Notre citron. C'est marrant, on presse dessus, ça sort, c'est joli comme
c'est
tout.
Joli, en plus. Ça ressemble à du vrai caviar. Enfin, on a vérifié avec Philippine qu'on a amené du vrai. Alors, est-ce que vous avez pour nous une astuce pour un dîner chic et sans pépins?
Alors, pour un dîner sans pépins, vous récupérez un peu de tulle, bon, vous le lavez et vous y enfermez vos demi-citrons coupés. En fait, ça permet de bloquer les pépins quand vous le pressez. C'est assez chic.
On voit ça dans les grands restaurants. Hein.
Ah oui?
Oui. Je trouve, non, Mélanie, vous avez jamais vu ça?
Ouais. Si, bien sûr. Bah. Non, je sais pas.
Mélanie, elle mange. Moi, je mange mon citron.
Avec les plateaux de fruits de mer.
Oui, on en voit avec les plateaux de fruits de mer.
Je trouve ça super joli. Je crois que c'est turc comme astuce. Mmh. Alors, le citron peut aussi servir d'encre invisible, hein, façon Léonard de Vinci. En fait, vous avez juste à tremper une plume dans son jus et écrire vos messages enflammés ou vos menus. Hein, c'est vous qui voyez. Ils se dévoileront à la lueur d'une bougie.
Incroyable. Ça marche, ça? Vous avez essayé?
J'ai essayé, tout à fait.
Génial. Avec les enfants, ça fait une activité. Bah,
tout à fait. Et une petite blague nulle pour terminer.
Ah, s'il vous plaît.
Alors par contre, il faudra quand même éviter de la sortir à votre dîner. Hein.
D'accord.
Que dit un citron qui fait un hold-up? Plus un zeste, je suis pressée.
Voilà. Pour mettre c'est de l'ambiance.
Elle est jolie. Elle est mignonnette.
Alors si on veut plus de recettes, on va où?
Eh bien, on va sur amassos.com et sur Instagram, margot-amassos.
Et est-ce qu'il y aura la recette là, avec le gingembre,
Je vais la mettre.
Nathalie Le Breton, dingue. Philippine Darblay, vous connaissiez le citron caviar?
Oui, alors en fait, je l'avais juste vu sur un arbre et puis je l'ai goûté un peu par parcimonie, mais je dois avouer que l'ouvrir comme ça et voir toutes les petites billes sortir, c'est un pur bonheur.
Mais en plus, c'est très, je sais pas, déstressant, je trouve, d'appuyer sur le citron caviar et de voir.
Enfin, quand vous connaîtrez le prix, ça va vous stresser.
Ouais, c'est quand même j'ai halluciné.
Combien ça coûte un petit citron comme ça, juste un?
Dans les 5 euros.
Ah oui, quand même.
C'est cher. Ouais, non, mais facilement.
Même plus, ouais, ça doit être dans les 7.
Bon, allez, pour les fêtes, on
Moi, j'étais à Rungis pour les chèches.
Bah, très bien. Merci beaucoup, Margot, pour cette chronique gourmande et un peu acidulée ce midi. Ça a bien réveillé nos papilles. Merci encore et surtout pour toutes ces idées, hein, pour en faire quelque chose à la maison, au global, hein, dans la cuisine, dans la salle de bain, partout. Restez avec nous, Margot. D'autres tendances arrivent dans quelques minutes. Oui, le citron, c'est trop. Il passe.
Il va falloir avaler, Mélanie.
Il y aura notamment la prescription lecture pour nos enfants de Nathalie Le Breton, avec des bouquins aujourd'hui pour les frères et sœurs en pleine rivalité. Des livres très utiles, je pense. Et puis Philippine Darblay va nous faire découvrir les dernières nouveautés du côté du caviar, le vrai là, hein, pas le citron caviar. Encore un produit de fête pour terminer sur un feu d'artifice aujourd'hui sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre trio de chroniqueuses aujourd'hui. On a découvert juste avant comment bien cuisiner le citron caviar et puis utiliser le citron dans tous ses états, on va dire, avec Margot Grossman. À présent, Nathalie arrive avec des livres destinés aux enfants pour apaiser la jalousie entre frères et sœurs qui se manifeste à la naissance ou au quotidien. On voudrait de toutes nos forces que cela n'arrive pas, mais c'est apparemment quasi inévitable, hein, je crois.
J'ai des citrons pour ça.
C'est utile aussi, donc ça va.
Dans l'œil. J'ai quelques bons livres et je voudrais commencer avec Claude Ponty, qu'on ne présente plus évidemment, et avec ce livre absolument fabuleux qui s'appelle Sœurs et frères, qui est sorti à l'école des loisirs. C'est une galerie de portraits. Donc ça a un côté hyper efficace et en gros, il passe en revue tous les caractères un peu pénibles des frères et sœurs. Et comme on a tous des frères et sœurs et qu'on l'est soi-même et qu'en plus on est toujours un petit peu pénibles tous les uns les autres, on va se reconnaître. Donc, par exemple, dans les portraits, il y en a un qui s'appelle l'entorin. Il ne sait pas ce qui se passe. Vous savez, c'est le frère qui est là, qu'on essaye de bouger, qui en plus... Il va aller répéter tout ce qu'il faut pas dire aux parents. Et alors celui-là, en général, il s'appelle plutôt caveton délation. Vous voyez, caveton délation.
C'est le faillot.
C'est, mais exactement.
Ça c'était moi. Évidemment. C'était moi, je crois, quand j'étais petite.
C'est vrai. Ouais. Ça, alors Julia dit que c'est le faillot, et puis moi je dirais que c'est la façon de se faire aimer, de se faire remarquer, bien sûr.
J'étais tout ça à la fois, je crois.
Exactement. Et il y a le coup passe-cou, enfin celui qui fait tomber tout le monde, etc. Donc en fait, vous avez cette galerie de portraits. La plume satirique de Claude Ponty, je vous le montre, c'est-à-dire qu'effectivement, le lanterin, il ne sait pas ce qui se passe, vous voyez, il est représenté par un pavillon d'oreilles. Quand vous allez voir celui qui est casse les bonbons, par exemple, eh bien, c'est une pince à noix. Donc, en fait, c'est rapide, chacun se reconnaît, ça permet de sourire. Derrière, vous avez une petite recette. En trois mots, comment vivre avec un lanterin, il ne sait pas ce qui se passe. Eh bien, il faut en gros lui faire de la communication visuelle. Avec les mains ou avec les écrans. Donc, il y a plein d'humour. À la fin, vous avez le petit billet pour faire la commande du frère ou de la sœur idéale, si jamais c'est en route. Ou alors, le bon d'échange pour faire repartir tout de suite ce frère ou cette sœur absolument insupportable.
Il y a le bon d'échange, c'est cool ça, c'est génial.
Il y a le bon, au moins c'est dit.
Exactement.
Voilà.
Oui, même moi, si j'avais trois frères et sœurs, il m'aurait fallu trois bons d'échange.
Oui, mais pourquoi pas, on peut les photocopier, c'est ça qui est bien. Et vous voyez, c'est allégeant pour les parents parce qu'on n'est pas obligé de parler passer par des grands discours. C'est rapide, il y a une image, il y a trois mots, tout le monde se reconnaît.
Alors, en plus, c'est soulageant, je trouve, pour les parents, comme ça, c'est pas le bureau des plaintes. N'empêche qu'on peut se mettre à leur place, à ses enfants, et se souvenir nous-mêmes que, franchement, c'était pas forcément une bonne nouvelle, un petit frère ou une petite sœur qui débarque.
Non, oui, ça sent un peu le vécu.
Mais moi, j'étais l'aînée, j'en ai eu deux qui ont débarqué.
Et moi, trois derrière. Ouais, c'est...
Et moi, un.
Douloureux à chaque fois.
Et donc, après, vous avez mieux compris vos enfants quand ça s'est passé, parce qu'en général, c'est on ça. A tendance, hein, ça se reproduit un petit peu tout ça. Et alors là, j'ai le livre que j'adore, que j'ai mis dans la box Notice et Othon, et ma box qui s'appelle La famille s'agrandit. Et le livre s'appelle Le bébé s'appelle Repart. Déjà, rien que dans le titre, c'est dit. C'est un livre d'Émilie Chazeran et Isabelle Maroger qui est sorti chez Gauthier Langros. Et on voit cette petite fille qui nous met devant nos incohérences. Il y a un ventre qui grossit, tout le monde se réjouit que cette chose-là est en train de taper dans le ventre, alors qu'elle, elle n'a même pas le droit de taper ses jouets, par exemple. Donc, elle repère toutes ces choses-là, elle se plaint d'un papa qui d'un seul coup est passionné par les meubles en kit en bois suédois, alors qu'avec elle, il ne fait même pas de pâte à sel, vous voyez le genre. Donc ça, effectivement, elle repère tout ça et elle se dit ça va être très mauvais, elle se dit c'est la fuite, il faut que je m'en aille. Et elle décide de partir un après-midi comme ça, rattraper illico presto par le tonton. Et ça, le rôle de l'entourage, c'est extrêmement important. Et ce tonton, très habilement, va lui rappeler combien elle a été le soleil de cette famille, comment pendant qu'elle était bébé, on ne parlait que d'elle, on ne prenait des photos que d'elle, etc. Elle s'est dit, bon, finalement, c'est vrai, s'il arrive, cette petite chose arrive, c'est quand même un peu grâce à moi. Et donc, elle décide de revenir chez elle et quand même d'aller piquer quelques jouets à son frère, parce que s'il a la chance d'en avoir, c'est quand même un peu grâce à elle.
Bon, au-delà de la naissance, Nathalie, c'est aussi une question de caractère entre les deux. On peut n'avoir aucune complicité. Est-ce que c'est grave?
C'est pas grave, parce que je crois qu'il faut redire à tout le monde, aux parents, que bien sûr, on fait partie de la même famille. On n'est pas forcément obligé de s'aimer. Dans une fratrie, il y en a un avec lequel on s'entend mieux et l'autre un peu moins bien, mais par contre on est obligé de se respecter. Et là où ça se corse, vous avez raison Mélanie, c'est qu'en fait par exemple il y a énormément de familles recomposées et quand il y a un bébé qui arrive, là ça devient un peu plus compliqué parce que cette chose-là non seulement elle est plus petite, en plus dès qu'il se passe quelque chose, c'est le grand qui en prend plein sa tête, il y a une notion d'injustice. C'est ce que nous dit ce livre qui s'appelle Jules n'aime pas sa petite sœur, c'est Christelle Devesa et Marie Bretin qui ont sorti ce livre.
Au moins le titre est clair.
C'est clair, c'est sympa parce que c'est une maison d'édition en participation, ça s'appelle Pointe à la ligne, et surtout c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a cette distance, et puis à un moment donné, il y a un grand qui attaque justement la petite sœur qui est arrivée, et là, d'un seul coup, c'est plus quelque chose qui se décrète, mais c'est le cœur qui va parler chez ce grand frère, chez ce demi-grand frère, quel mot absolument horrible, et là on s'aperçoit qu'il y a quand même des liens.
Mais c'est génial, c'est l'occasion chouette. Finalement d'enterrer l'âge de guerre, non ?
Mais oui, et nous, de respirer un tout petit peu. C'est pas du luxe.
C'est génial, merci Nathalie pour toutes ces belles prescriptions lecture pour nos enfants. Je crois que j'ai vu Mélanie noter 2-3 références. À mon avis, chez les enfants Gomez, il y a besoin de calmer quelques tensions. C'est vrai ou pas, Mélanie ?
Oui, un petit peu. Oui, il y a beaucoup d'écart d'âge, donc il y a des jalousies. Ouais.
Bon, ça va agrandir votre bibliothèque. Ça.
Exactement. Alors maintenant, on va passer à un autre produit très tendance pour les fêtes. Enfin, pas pour tout le monde, parce qu'il faut avoir les moyens, mais quand même, c'est un produit de luxe à l'origine très conventionnel qui connaît un nouvel essor philippine, le
caviar. Oui, alors c'est vrai que maintenant on le voit un peu partout, hein, dans les grandes tables, mais aussi les tables un peu plus contemporaines, donc par exemple sur des dos de tartare de bœuf ou encore sur des gaufres sirop d'érable. Oh. Et puis en plus on voit apparaître pas mal de techniques de production assez futuristes, vous allez voir, on va en parler. Bref, le caviar a vraiment le vent en poupe. Alors évidemment, il y a des tonnes de bienfaits, phosphore, protéines oméga 3. D'ailleurs, les Russes le mangent au petit déjeuner.
Ah oui,
c'est quand même très chic. Hein.
Les astronautes soviétiques même. Hein,
et les astronautes, on mangeait avant d'aller dans l'espace, c'est pour dire.
Hein. Bon, soyons honnêtes, c'est surtout pour son goût qu'on l'aime. Hein,
oui, c'est vrai. Alors, moi, contrairement à Nabila, qui apparemment, entre le McDo et le caviar, choisirait le McDo, personnellement, j'en mangerais bien un peu plus souvent. D'ailleurs, je vous en ai apporté un petit échantillon. C'est une maison dont je vais vous parler un peu plus tard. Voilà, je vais vous faire circuler. La boîte est sublime.
Alors, si vous commencez par Julia, je crains qu'il n'en ait plus pour le reste de la table. Vous avez raison, commencez par Nathalie.
Même elle est d'accord.
Même moi, je suis d'accord, je suis beaucoup trop gourmande.
Avec plaisir.
Ah mais c'est génial.
Je vous en laisse un peu les filles.
Ça serait gentil, merci.
Voilà, comme ça vous me direz un peu ce que vous en pensez. Mais alors, c'est quand même, il est bon de savoir que c'est un produit d'affinage, comme le fromage ou le vin. En fait, on attend qu'il mature. Et puis c'est un héritage qui est vraiment passé entre les mains des Perses et des Tsars.
Voilà. Les Tsars russes, oui. Ouais. Mais le caviar actuel, c'est plus que de l'élevage, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, ça n'est plus que de l'élevage, parce qu'il y a une pêche intensive. Donc le poisson est en fait en quasi voie d'extinction. Donc ce que vous avez aujourd'hui n'est que de la pêche d'élevage.
Ah, après, oh là là, c'est joli ça.
Oui, c'est beau, hein, ça brille et tout.
Je prends une bonne cuillère, mais je peux bien goûter.
Ah ouais, bah c'est bon, fait pour.
Délicieux.
Oh là là, oui.
Ah, en tout cas, ça reste un produit très cher, hein, parce que simplement, bah, le temps, c'est de l'argent. Et dans ce cas-là, c'est pas une blague, il faut attendre au minimum 7 ans pour que la femelle produise ses premiers œufs. Oh là là, ça a l'air bon.
En régie, ils sont très jaloux. J'étais en train de parler là, avec mon petit bouton en régie. Mais ils sont très jaloux. Regarde. C'est délicieux.
On vous regarde. Et en fait, ça peut aller jusqu'à 20 ans pour attendre que le beluga, par exemple, produise ses premiers œufs. Voilà, alors là, le petit pot que je vous ai amené est aux alentours de 108 euros, à peu près.
C'est un petit pot, hein ?
C'est un petit pot de 50 grammes. Et ça peut monter, attention, jusqu'à 20 000 euros le kilo pour certaines variétés. Enfin, c'est assez démentiel. Après, le prix ne change pas, mais c'est quand même un monde qui a beaucoup évolué dernièrement, hein, notamment concernant la production. Par exemple, aujourd'hui, on a la capacité de faire des sortes de césariennes aux poissons, ce qui permet donc de retirer les œufs sans tuer le poisson. Il y a une autre technique non invasive qui consiste aussi à provoquer la sortie des œufs avec un massage. C'est un peu technique. Et ça va encore plus loin. Cette année, il y a une entreprise anglaise qui a annoncé être en train de réaliser le premier caviar cultivé en laboratoire. Alors pour ça, ils utilisent des protéines et des lipides dérivés du poisson.
Il n'y aurait plus besoin
cultiver.
De tuer de poisson
voilà.
du tout. Quoi,
après, ça reste à voir. On n'a pas encore le résultat. Mmh. Mais en tout cas, il y a des essais là-dessus. Et puis maintenant, c'est bon à savoir, le caviar est produit partout dans le monde. Et la France serait le troisième producteur mondial de caviar. Voilà, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas forcément. Après la Chine et l'Italie. Voilà,
est-ce qu'on peut faire repasser le pot dans l'autre sens parce que quand
quand
on goûte qu'une fois, c'est pas évident de se faire une idée, je trouve. Hein, vous trouvez pas
bien, c'est une belle cuillerée.
Eh ben moi, j'étais prête à me sacrifier pour les garçons en régie.
Il y en a assez pour tout le monde.
Bon, en tout cas, c'est une production niche qui grossit, qui se globalise. Ça donne quand même lieu à quelques surprises. Lidl, par exemple, arrive à vendre une petite boîte de 15 grammes à moins de 8 euros. Moi, ça me fait un petit peu peur. Pour vous donner un ordre de prix, c'est moins de la moitié de ce que vous avez là entre les mains. Bon, d'ailleurs, j'ai parlé aux équipes d'une jeune marque qui s'appelle Volzenka, dont la maison mère d'ailleurs est née dans le berceau du caviar sur la mer Caspienne. C'est quand même très beau comme patrimoine. Et eux produisent donc de manière traditionnelle, n'utilisent pas toutes ces techniques. Et comparent quand même cette situation à celle du saumon. On a vu ce que ça a donné en une petite dizaine d'années. Ça a un peu explosé dans tous les sens et pas dans les bons sens. Alors voilà, je voulais vous parler un peu plus de cette marque parce que sa tête, il y a une jeune génération. Il y a Katia qui est directrice et Macha qui est son bras droit. Les deux ont 29 ans et Macha d'ailleurs nous explique que le marché peut même être trompeur et trompeur pour les consommateurs.
Le plus gros souci de l'industrie à mon avis est le manque de réglementation, de transparence et d'éducation sur le produit. On a l'impression que l'industrie actuelle est construite pour tromper le client. Dans la boutique, on vous dit qu'il s'agit de beluga iranienne ou russe, et en réalité, c'est une race hybride où seulement 20% est de beluga, qui est cultivée en troisième génération en captivité dans un bancaire sans soleil, quelque part en Chine ou Uruguay.
Donc voilà, oui, certaines boîtes peuvent afficher beluga et pourtant provenir de poissons élevés dans des bunkers sans lumière, ça n'est pas une blague. En fait, c'est assez flippant, il n'y a aucune certification, aucun moyen de vérifier les conditions d'élevage, la qualité des espèces, et puis en plus, pour revenir sur ces techniques de césarienne, etc. Ça donne malheureusement pas du tout le même type de produit. Bref, il y a un énorme travail d'apprentissage et de rééducation autour du caviar. Et puis, ce que j'ai trouvé quand même beau, c'est que le but de Katia et Macha, c'est aussi de valoriser cet héritage russe. Le caviar, c'est un grand symbole de santé, de famille, d'histoire, qui sont vraiment des valeurs à garder.
Merci beaucoup, Philippine, pour toutes ces découvertes entre ce qu'on a vu au début de l'émission pour bien choisir son champagne, son foie gras, et puis vos conseils aussi en matière de caviar. De nouveautés dans le caviar, pourquoi pas même de citron caviar si vous préférez.
Exactement.
Je crois que les réveillons s'annoncent somptueux cette année. Voilà, bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. On sera évidemment demain à la même heure, dès 11h sur Europe 1. Et Julia, demain, de quoi va-t-on parler?
Alors demain, on va se poser la question suivante. À votre avis, est-ce qu'on peut être sportif et manger des burgers, des pizzas et des tacos? Et bien voilà, c'est ça la question. Et bien en tout cas, c'est ce que promet notre invité dans Bien fait pour vous. 30 jours avec de vrais menus fast-food, mais sains et faits maison. Et oui, on perd le gras, mais on garde le plaisir.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.